Boomerang avec Riyad Satouf, c'est parti. C'est un homme qui ne marche pas, je le précise parce que la BD s'appelle L'homme qui marche, mais là il marche pas. Il est pieds nus, allongé sur un arbre en plein milieu, comme sur un hamac, vous savez, la jambe droite tendue sur une branche qui remonte comme pour s'étirer, et la jambe gauche dans le vide qui doit se balancer sans doute, mais sur cette image, de fait, elle ne bouge pas. Il a l'air bien quand même avec son large pantalon, c'est son blouson. Au second plan, il y a la ville qui se dessine et la nature aussi entre les toits. On sent qu'il est bien à regarder ses feuilles qui se découpent dans le ciel derrière ses petites lunettes, tête en l'air, ailleurs. Il est comme suspendu à l'image du temps, un temps qu'on dirait mort, même si c'est pas tout à fait le cas, tellement il se fond dans cet environnement qui respire le vivant. Disons qu'il se donne le temps de prendre de son temps, de regarder au loin, d'être ailleurs. C'est une image en noir et blanc et pourtant elle est pleine de couleurs. Je vois du vert, du bleu, du jaune qui se mêlent au gris de la ville, qui prennent de plus en plus de place, qui débordent. Tout ça, c'est dans ma tête. C'est une image sans texte aussi. Il n'y a pas de bulle ou de légende. Et pourtant, elle dit beaucoup cette planche du dessin de Jiro Taniguchi. La possibilité d'une pause, la probabilité de la pensée, la permanence de la poésie.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quelles images est fait mon invité d'aujourd'hui? Lui qui en fait des images et qui, comme Jiro Taniguchi, a la grâce d'écrire des BD qui séduisent ceux qui d'habitude n'en lisent pas. Il publie aujourd'hui le deuxième tome de ses cahiers d'Esther, chronique hilarante d'une petite fille de 11 ans à la page, pour le moins ordinaire. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Quelles images réelles ou de BD d'ailleurs surgissent dans votre esprit quand je vous dis Jiro Taniguchi?
Jiro Taniguchi, c'est un immense génie de la bande dessinée. Et c'est vrai que là vous parliez de L'homme qui marche, et c'est, je crois que c'est un de ses premiers mangas qui avait été traduit en français, et je l'avais lu ado. Et c'est vrai que l'image qu'on pouvait avoir des mangas à l'époque, c'était des bandes dessinées d'action, un peu Dragon Ball, etc. Et lui avait imposé justement au lectorat français, je pense, une autre façon de faire de la bande dessinée japonaise, disons, voilà.
Oui, c'est intéressant le succès de son œuvre auprès du public français et occidental. On disait parfois qu'il faisait le pont entre la BD et le manga. Vous en pensez quoi, vous?
Je pense que c'est de la rhétorique, un petit peu, parce que c'est de la bande dessinée dans tous les cas. Le manga, c'est de la BD.
Dessinée,
c'est de la bande dessinée, voilà. Mais c'est vrai que Taniguchi avait un... Enfin, c'était un auteur qui assumait des partis pris assez forts. Par exemple, L'homme qui marche, en effet, il se passe pas grand chose. C'est une bande dessinée contemplative.
Quasi expérimentale.
Voilà, et c'est un grand génie.
Vous êtes un lecteur de manga, vous?
Énormément. Ah oui, j'en lis beaucoup.
Lesquels?
Oh, je lis toutes sortes.
Faut nous conseiller, là.
par exemple, pour pas parler que de manga d'auteur ou de... Enfin, d'auteur, si, c'est un auteur, mais par exemple, j'adore le choc des titans.
Bon.
Quand il n'y a pas longtemps, qu'il y a une sorte de bande dessinée avec des humains entourés par un rempart, comme ça, et attaqués par des géants, c'est génial. Je lis toutes sortes de trucs.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le manga aujourd'hui, c'est presque l'équivalent de Tintin ou Astérix à notre époque. Regarde, puisqu'on est à peu près de la même génération. Quelles conséquences, à votre avis, sur la jeunesse? Cette jeunesse qui est votre objet d'étude préféré, sur leur utilisation du langage, sur leur façon de raconter des histoires, sur leur appréhension du monde aussi?
Alors, je pense que ce qui est fantastique avec les mangas, moi je dirais jamais de mal de la bande dessinée japonaise, j'adore ça, et tout ce qui peut faire lire les jeunes est bien. Enfin, c'est-à-dire, quand on lit un manga, au moins on lit et on découvre le monde. Enfin, s'il y a une telle variété de propositions, justement, surtout aujourd'hui, que en plus c'est une entrée dans le monde adulte.
Oui.
C'est-à-dire, souvent, on parle de bande dessinée jeunesse on me dit, mais toi, est-ce que tu fais des bandes dessinées pour les jeunes? En fait, les jeunes ont horreur qu'on leur propose des choses pour eux.
Les jeunes auraient-ils horreur d'être jeunes?
Voilà, exactement. Ils veulent qu'avoir accès à des trucs un peu interdits, etc. Et le manga est justement cet univers où on peut découvrir plein de choses un peu interdites, des univers, voilà.
Du sexe aussi. Même si un peu censuré.
Entre autres,
c'est avec Tintin, Riyad Satouf, que vous avez appris à lire. Il faut nous raconter.
Ben oui, tout à fait. Quand j'étais enfant, et c'est ce que je raconte dans ma bande dessinée L'Arabe du futur, mais j'habitais en Syrie, et donc on avait uniquement, les seuls livres que j'avais, c'était Tintin que ma grand-mère m'envoyait par la poste, que ma mère m'achetait. Donc j'ai lu Tintin toute la journée. Voilà, il y a des gens qui grandissent avec en lisant la Bible, d'autres en lisant le Coran. Bon, moi, j'ai lu Tintin.
C'est intéressant. Ça veut dire qu'il vous a appris à lire et ce qui vous a aussi appris à penser.
Disons que oui, sans doute, je me suis construit. J'ai construit mon rapport aux histoires avec la façon dont Hergé construisait ses histoires. Par exemple, pendant des années, j'ai lu Tintin sans que ça ne me gêne jamais qu'il n'y ait aucune fille, par exemple. Et au moment d'arriver à l'adolescence, je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre que j'ai adoré cette bande dessinée et qu'il n'y a que des mecs tout du long. Et c'est une succession de prises de conscience, Tintin. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même donc à l'adolescence, il y avait ce problème d'absence des filles. Et puis ensuite, je me suis dit, mais quand même, il représente les autres peuples. Enfin, les Tintin au Congo, c'est quand même ultra raciste. Et donc, je me suis intéressé à qu'est-ce qui l'avait amené à représenter les Noirs de cette façon. Et j'ai découvert la façon de penser de cette époque-là. En fait, voilà, c'est une succession de prises de conscience.
Et puis Tintin, c'est aussi, Ria, de la simplicité et la lisibilité en bande dessinée. À quoi ça tient, justement, la lisibilité en bande dessinée? Comment on fait pour faire un album qui soit lisible par tout le monde, tout sexe, tout âge confondu, aussi par des gens qui lisent pas forcément de BD?
Tiens. Oh, ça, c'est difficile. Mais alors, je sais que c'était une de mes grandes volontés, quand je fais mes albums de bande dessinée, c'est d'imaginer que en fait, ma grand-mère, qui ne lisait jamais de bande dessinée, qui trouvait que c'était un truc pour neuneux, d'imaginer que ma grand-mère pourrait lire mes livres. Et donc, en fait, tout simplement, je me dis, je vais bien écrire les textes pour que ce soit bien lisible. Oui. Les bords des cases sont bien droits. Les
personnes aussi à ça.
moi, je pense à ça. Et que ce soit une petite musique, quelque chose, un rythme dans les dessins, dans les cases, des dessins clairs et simples. Et c'est vrai que Hergé est une de mes grandes référence pour ça, parce que il se souciait vraiment de la lisibilité de ses dessins, de la lisibilité des expressions. Par exemple, c'est aussi représenter les personnages en pied. Souvent, Tintin, quand il donne un coup de poing, c'est pas tellement cinématographique, c'est-à-dire il n'y a pas le poing en premier plan,
oui,
avec une image très dynamique. Ça va être Tintin en pied qui donne un coup de poing, donc on voit bien tout le... Il y a quelque chose de très, très simple et lisible que j'adore.
Les Cahiers d'Esther, c'est une BD tout public?
Moi, j'ai l'impression que oui.
Il y a quand même des choses extrêmement choquantes, Riyad, sur le sexe et la reproduction notamment.
Disons que les Cahiers d'Esther, c'est donc je fais cette bande dessinée d'après les histoires vraies qu'une vraie petite fille de 11 ans me raconte sur son quotidien, sur ce qu'elle apprend à l'école, sur ses amis, ses goûts, etc. Et souvent, en effet, elle me raconte des choses qu'elle va pas forcément raconter.
Donc c'est le moment de vous justifier sur la reproduction.
C'est ça. Et donc tout un passage où il se trouve qu'en CM2, c'est le moment où les enfants apprennent la reproduction et comment se produit l'acte lui-même, etc. Donc elle m'a raconté comment ça se passait dans sa classe. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez, Augustin, mais je pense qu'on est de la même génération. Nous, on avait. Enfin, moi, je me souviens avoir appris ça en 6e.
Ouais, vous êtes un peu plus vieux que moi, je crois. Est-ce qu'elle en lit des BD, Esther? Parce que j'ai cru comprendre, elle est plutôt quatre filles du Dr March et Club des Babysitters.
Ouais, non. En fait, elle s'en fout un peu de la bande dessinée.
Ouais, c'est un problème, ça.
La vraie Esther, justement, souvent, je lui dis, mais alors, est-ce que tu lis les bandes dessinées que je fais d'après tes histoires? Et elle s'en fout complètement. C'est-à-dire, elle préfère les romans, elle a lu tout Harry Potter, tout...
Mais le club des babysitters, surtout, je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu une forme de transfusion? Est-ce que vous-même, vous êtes plongé dans le club des babysitters?
De toute façon, quand elle me parle de ses lectures, les Cahiers d'Esther, c'est aussi un récit de voyage, en fait. C'est-à-dire, je vais...
C'est exploration.
J'explore le monde d'une petite fille de 11 ans. Et en effet, quand on s'intéresse à ce qui constitue son quotidien, ses goûts, ses lectures, ses goûts musicaux, on découvre des trucs excellents. C'est-à-dire, il y a des...
Et c'est qui votre préféré, par exemple, dans le club des babysitters?
Par exemple, le club des babysitters, c'est le concept est assez génial. C'est un groupe de petites filles qui font un club de babysitters, mais elles s'entraident quand elles ont des galères, et donc ça provoque des aventures sans fin. Mais en fait, il y a une sorte de... Alors, la vraie Esther voulait faire du babysitting après ça, donc elle a commencé à me dire, mais en même temps, elle fait tomber son petit frère. Il y a tout un...
J'ai adoré, du coup, je me suis plongé. Lucie McDouglas, la trésorière, elle est, mais grave.
C'est hyper bien. Il y a tout un univers, l'univers des petites filles est un monde complètement fascinant.
Celle dans cette émission, Riyad, qui aimerait bien fonder un club, mais qui n'a jamais réussi à réunir plus de 2 membres, vous la connaissez sans doute, c'est la culture et son actualité qui divise, sans jamais fâcher. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 16 février?
Qu'est-ce qui se passe? C'est Marcel?
Et oui, c'est sans doute Marcel, à l'ombre des Mariés de la Madeleine. Un chercheur canadien affirme avoir trouvé le seul film sur lequel apparaîtrait Marcel Proust. L'archive date de 1904 et a été tournée lors du mariage d'aristocrates, amis proches de l'auteur. Dans une vidéo muette, on voit un homme doté d'une fine moustache, coiffé d'un chapeau melon et habillé à la mode anglaise, se faufiler dans le cortège nuptial qui descend les marches de l'église. Et après vérification par archives croisées, la date, l'endroit, l'événement et l'accoutrement laissent peu de place au doute. L'homme serait bien l'auteur de la recherche, mais l'histoire ne dit pas s'il court se coucher de bonne heure. I wake up and I wonder, the sky's never been clearer, why all is so silent, all is so silent. Likili tout doux, si la chanteuse suédoise fait une pause dans sa carrière solo, ça l'a pas empêché de prêter sa voix à son ami Kiki Almos pour une collaboration tout en douceur, spectrale, en délicates harmonies. Kiki et Liki viennent donc de révéler Birds en version a cappella, un titre planant sur lequel on redécouvre la voix cristalline de l'interprète de I Follow Rivers. En parallèle, Liki continue l'aventure avec son groupe Liv et doit collaborer au prochain film de Terrence Malick. Ça c'est chic.
Je dois très bientôt me rendre dans le Nord. Peut-être voudrais-tu m'accompagner?
Moi? Voyager dans le Nord?
Le Nord? Il doit y faire froid.
À la croisée des mondes, sur les rails du retour, 17 ans après la publication du dernier tome de la saga Fantasy Mythique, son auteur Philippe Pullman a annoncé hier qu'il allait donner une suite aux aventures fantastiques de Lyra Bellaca et Will Parry. Le premier tome de sa nouvelle trilogie doit sortir le 19 octobre prochain. Il s'appelle The Book of Dust, le livre de la poussière, et fera écho, paraît-il, à la situation politique actuelle, promet Pullman. Tout un programme. Taylor Swift et les Girls secouent le palmarès Forbes. Le traditionnel classement annuel des musiciens les mieux payés de la planète vient d'être révélé par le magazine américain. Bonne nouvelle, sur les 5 premiers artistes, 4 sont des femmes. Miss Swift, l'interprète de Shake It Off et redoutable femme d'affaires, se hisse sur la première marche du podium, suivie à la 3e, 4e et 5e place par les divas Adele, Madonna et Rihanna. You go girls! Riyad Satouf, invité de Boomerang ce matin. L'actualité de la culture, c'est aussi vous, Riyad, avec la sortie aujourd'hui, je le disais, du deuxième volume des Cahiers d'Esther. Esther qui a maintenant 11 ans, vous allez la suivre jusqu'à quand?
J'aimerais bien la suivre jusqu'à ses 18 ans.
Et vous l'imaginez comment dans une dizaine d'années?
Oh, alors là, c'est très, très difficile. Justement, j'ai hâte de voir. Bon, peut-être que d'ici quelques années, si elle fait une crise d'adolescence, elle va en avoir ras-le-bol de me raconter cette histoire, elle va me virer.
Mais c'est ce que je me suis dit à chaque planche. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle vous fasse un procès? qu'elle vous dise que vous avez détruit son enfant? C'est 10 ans de psychanalyse, une bêtise.
Non, un procès, peut-être pas, mais peut-être. Non, mais disons que je change quand même les noms, les visages, pour pas qu'on la retrouve quand même. Voilà, mais c'est vrai qu'elle reste. Je me dis parfois, peut-être qu'elle en aura le marre quand je l'appelle pour lui demander alors, cette semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Peut-être qu'au bout d'un moment, elle en aura ras-le-bol.
Bien sûr, il y a ce moment où elle va être saoulée à l'âge de 13-14. À mon avis, l'adolescence, ça va être chaud, Riyad.
Et en même temps, comme elle lit beaucoup et qu'elle elle rêve de devenir éditrice de livres, je me dis qu'il y a peut-être une chance pour qu'elle continue à aimer ce rapport avec le livre qui est fait d'après ses histoires.
Et si elle vous vole aux éditions Alary et qu'elle exige de vous publier, vous ne pourrez pas dire non?
On ne sait pas de quoi le futur va être fait.
Ce qui est intéressant, je le disais, c'est que le monde de l'enfance et de l'adolescence est devenu un thème quasi obsessionnel. Chez vous, depuis La vie secrète des jeunes jusqu'au Cahier d'Esther, en passant par le film Les Beaux Gosses, L'Arabe du futur. Qu'est-ce qui vous intrigue à ce point chez le jeune? Est-ce que vous avez fini par le savoir, vous?
Disons que... C'est aussi parce que j'ai une mémoire assez vive de ma propre enfance, de ma propre jeunesse, et j'ai l'impression d'être encore jeune quelque part. Je me rappelle très très bien de quand j'avais l'âge d'Esther, et quand je lui parle, c'est comme si je parlais à quelqu'un qui avait le même âge que moi. Enfin, je sais pas si je suis intéressé par découvrir de quoi est fait son...
Donc là, on est sur un cas intéressant. Vous avez quel âge dans votre tête, Riyad?
Non, je pense que j'ai bien 38 ans, mais c'est vrai que les jeunes, il y a quelque chose de très rafraîchissant aussi. Souvent, moi, quand je regarde le monde extérieur, je me rends bien compte que, avec le temps qui passe, je suis en train de devenir un peu comme tous les mecs qui vieillissent. J'ai l'impression que le monde va à son effondrement, parce qu'en fait, c'est mon propre effondrement que je constate. Et quand on parle aux enfants, notamment à Esther, c'est génial, c'est que elle voit le monde de manière très positive. Elle est très optimiste et très joyeuse. Et Donald Trump lui fait peur parce qu'il est moche, mais lui fait pas peur parce qu'il risque de faire sauter la Terre. Et il y a quelque chose de très rafraîchissant. En fait, on se dit, bah ouais, mais ça se trouve, voyons les choses autrement. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez les jeunes.
Mais c'est intéressant que vous parliez de parole, parce que moi, j'ai beaucoup pensé au langage. Je me suis dit, c'est peut-être la façon dont il parle aussi, le jeune, qui vous intéresse. Parce que j'ai l'impression, là, dites-moi si je me trompe, qu'Esther, elle est en train de passer d'un langage à un autre, vraiment. Peut-être du langage de la jeunesse au langage de l'adolescence. Ça se manifeste comment, par quels mots, par quelles expressions, par quel tic de langage, à votre avis?
Mais par exemple, la vraie Esther, quand elle était en CE1, CE2 et CM1, en fait, elle avait un langage assez châtié qui venait aussi des lectures qu'elle pouvait avoir, des contes. Donc elle avait notamment des livres un peu, entre guillemets, jeunesse intello qu'elle pouvait lire. Et là, finalement, plus elle grandit, son langage est... Enfin, modifiée par ses goûts musicaux, etc. Enfin, elle a des nouveaux mots qui apparaissent dans son... Par exemple, elle dit énormément « wesh », mais elle n'est pas du tout dans un milieu... elle est dans un milieu un peu protégée, oui, etc., où elle lit beaucoup.
Mais des fois, d'ailleurs, elle dit, ouais, l'idiome « wesh », je ne sais pas s'il est très utilisé encore.
Elle l'utilise énormément. Et par exemple, je lui ai fait lire, il n'y a pas longtemps, le tome 2, qu'elle n'avait jamais lu. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors, elle l'a lu, puis elle me dit, oui, alors, je trouve ça super réaliste de ma vie, des problématiques. Mais je trouve qu'il y a un truc qui n'est pas très réaliste, c'est que moi, je surveille beaucoup moins mon langage que le personnage, et j'emploie beaucoup plus de gros mots vulgarité. Alors, je dis, mais par exemple, quel gros mot vulgarité? Elle me dit, bah, par exemple, je dis beaucoup, je m'en bats les couilles. Et alors, je lui ai demandé d'expliquer ce que ça signifiait. Et en fait, dans plein d'histoires, ou par exemple, que moi, j'avais traduit par exemple, elle dit, tu viens, on va là-bas. Bon, moi, je le traduis par, oh non, j'ai pas envie. Elle me dit, bah là, par exemple, je dirais, non, je m'en bats les couilles. Et elle emploie ce mot sans savoir ce que ça signifie. Donc voilà, j'assiste en effet à la transformation de son...
En même temps, vous parlez de ses goûts musicaux qui pourraient la rajeunir. Elle a pas des goûts musicaux très jeunes, Esther. C'est quoi son artiste préféré?
Alors, elle a des goûts musicaux très jeunes, mais elle a découvert Balavoine.
Mais c'est un problème. C'est un problème sur France Inter aussi.
Elle est devenue obsédée par Balavoine.
Mais je vais vous dire un truc, parce que cette journée est placée sous le signe d'Esther, on va écouter Daniel Balavoine, parce qu'en fait, ça fait toujours du bien. 1980, la vie ne m'apprend rien jeudi matin. Vous êtes sur France Inter avec Riyad Satouf. Boomerang, vous êtes jeune.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments? Ce qu'il faut faire pour être grand, qui peut changer ce que je porte dans mon sang, qui a le droit de m'interdire d'être vivant, de quel côté se trouvent les bons ou les méchants, leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Prendre un chemin. Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Il croit peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille? Quand les prêcheurs sont à l'abri de la bataille, la vie des morts n'est plus sauvée par des médailles. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir le train. La n'apprends rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin.
C'est-à-dire que pour quelqu'un à qui la vie n'a rien appris, il a, c'est intéressant, l'aura du vieux sage quand même, hein, quelque part entre le Dalai Lama et le psy lacanien, tout en gardant sur ses joues qui rosissent hein, quand même, à vue d'œil, dans son œil pétillant, derrière sa lunette sans équivoque, dans la boucle, le bouclet frisé de ses cheveux noirs, une petite fraîcheur marine, iodée pour ne pas dire bretonne. Il est là avec sa veste, très jolie veste grise, rayée, avec du blanc, chemise noire, assez élégant. Une bigoudaine convertie, Riyad Satouf, invité de Boomerang ce matin pour la deuxième, pour la sortie du deuxième volet des Cahiers d'Esther. Esther qui traverse une année mouvementée, premier bouton sur le nez, naissance d'un petit frère, apologie de la tarte aux fraises, et puis attentat du 13 novembre et du 14 juillet quand même, rupture de tonalité, ne pas en parler, ça aurait été possible ?
Ça aurait été possible. Après, c'est vrai que c'est elle-même qui m'en a parlé. Souvent, je l'appelle au téléphone pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa semaine, etc. Et elle me parle rarement d'actualité ou de. Et là, dans les cas des attentats, justement, c'est elle-même qui est venue vers moi. Et c'est une petite fille qui vit dans un milieu protégé, c'est-à-dire ses parents ne lui font pas voir les informations.
Oui.
Et justement, je trouvais ça intéressant de voir ce qui, malgré le fait qu'elle soit très protégée comme ça, qu'est-ce qui lui arrive par ses copines dans l'école, qu'est-ce qu'elles absorbent de la violence du monde. C'est vrai que les planches sur les attentats, c'est sa vision à elle, raconté par ses copines.
Je vous pose la question parce que vous-même, vous n'êtes pas un très grand commentateur de l'actualité, Riyad, quand on vous interpelle sur la Syrie, par exemple, que vous avez connu dans votre enfance, vous avez dessiné dans l'Arabe du futur, pas de commentaires souvent.
En fait, ce qui m'est difficile pour moi quand on parle de commentaires de l'actualité, c'est que c'est la vision que je peux avoir de l'actualité, c'est une vision que je vais avoir par les lectures ou les journaux.
Oui.
Et c'est souvent un commentaire de journaux, en fait. Et je suis assez mauvais à ça. C'est vrai que ce que je pense, ce que je peux dire politiquement, j'essaie de l'exprimer dans mes livres. Je suis assez mauvais en synthèse. Enfin, voilà.
Et ce qui ressort, il faut le dire quand même, c'est pour ça que je parlais de rupture de tonalité, c'est le rire. C'est une BD extrêmement drôle. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire, vous, chez Esther ?
Dans la vraie Esther, je dirais que c'est son désintérêt total pour l'intérêt que je peux avoir pour son univers. Et c'était, je me rappelle, quand j'avais tourné Les Beaux Gosses il y a quelques années, c'était ce qui m'avait fasciné aussi, notamment avec l'acteur Vincent Lacoste, qui à l'époque avait 14 ans, c'est qu'il s'en fichait totalement de ce qu'on faisait, en fait. C'est-à-dire que quand Esther me parle de sa passion pour Balavoine, ou du dernier clip de Black M, ou de son utilisation de « Je m'en bats les couilles », moi je suis extrêmement intéressé par ce que ça signifie, et elle-même ne voit pas du tout en quoi ça peut avoir un intérêt pour qui que ce soit. Et donc ça me fait beaucoup rire, c'est une sorte de naïveté.
Cette Esther, avec ses histoires, c'est devenu une sorte de petit Nicolas au féminin, en fait. Elle connaît le petit Nicolas, elle ?
Elle m'en a jamais parlé.
Jamais ?
Non.
J'espère qu'elle va écouter cette émission.
Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustieux !
C'est pas le petit Nicolas, c'est le capitaine Haddock. Vous savez pourquoi, Riyad ? Parce que je vous ai demandé de décrire une planche pour terminer cette émission. Et vous avez choisi, en l'occurrence, vous avez choisi Tintin et le crabe aux pinces d'or. Pourquoi c'est une BD fondatrice pour vous et pourquoi cette planche en particulier ? On va décrire.
Tout à fait. Alors, le crabe aux pinces d'or, c'est un des premiers albums de Tintin. Et c'est aussi un des derniers que j'ai lus. Et moi, j'avais lu tous les albums de Tintin avec les aventures de Haddock et Tintin. Et donc, il faut savoir que c'est des personnages qui n'ont absolument aucune famille. Ils n'ont pas de fiancé ni de famille durant tout du long de leurs aventures. On ne sait pas qui sont leurs parents, etc. Et j'ai lu donc le crabe aux pinces d'or tout à la fin. Et dans le crabe aux pinces d'or, c'est là où Tintin rencontre le capitaine Haddock pour la première fois. Et donc, on assiste à leur rencontre. Et donc, dans cette page, elle est hallucinante. C'est Tintin est mis au fer par Alan, donc il essaie de s'enfuir de la cale d'un bateau. Il monte à l'étage et là il se retrouve dans la cabine du capitaine. C'est Haddock, il ne le connaît pas. Et il le menace. Et en fait, Haddock est complètement saoul. Il est bourré. Et il ne se rend pas compte, il ne savait même pas, c'était le capitaine du bateau, mais il ne savait même pas que Tintin était prisonnier de son bateau parce qu'il est trop bourré, etc. Et là, Tintin commence à lui faire la morale sur son comportement en lui disant « Mais c'est incroyable, vous êtes le capitaine du bateau, vous savez même pas ce qui se passe sur votre bateau. Moi, j'étais prisonnier, il y a de l'opium plein vocal et en plus, vous êtes bourré. » Et lui, il est extrêmement vexé. Et Tintin lui dit « Que penserait votre vieille mère si elle vous voyait comme ça ?» Et à ce moment-là, le capitaine Haddock, il dit « Ma maman, ma vieille mère », et il commence à pleurer. Et c'est la seule fois dans tous les Tintins où Haddock fait une référence, où il y a un des personnages qui fait une référence à leur famille. Et en fait, ça m'avait bouleversé quand j'étais enfant, parce que je m'étais dit « Mais j'ai lu toutes ces aventures, alors qu'il y a l'aventure d'Haddock avec sa vieille maman dont on ne sait rien ». Et je m'étais toujours dit que si je faisais un jour des bandes dessinées, je ferais des personnages avec une famille, parce que j'avais envie de connaître la famille du capitaine Haddock.
Vous ne voulez pas la ressusciter un jour ? La vieille mère,
une fois. D'Haddock.
Bon, on verra. Merci Riyad,
en tout cas,
d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que les Cahiers d'Esther, Histoire de mes 11 ans, sort aujourd'hui chez Alary Éditions. C'est super, vraiment. Tout de suite, Celle qui ne rigole pas avec les médias, Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça. I'm just